Voici la question du jour, chers auditeurs. Comment est-ce que je dois me comporter envers ceux qui me font du mal? La parole de Dieu va nous donner la réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Est-ce que vous croyez que la vengeance est douce? Qu'elle peut nous soulager quand quelqu'un nous fait du mal? Voici quelques questions intéressantes à ce sujet. Est-ce que je devrais me mettre en colère envers les gens qui commettent des injustices à mon égard? Est-ce que je devrais me venger? Est-ce que je devrais voir la main de Dieu dans ma vie, même à travers le mal que les gens peuvent me faire? Est-ce que Dieu planifie tous les événements de ma vie? Est-ce que je peux m'attendre à ce que Dieu me bénisse suite au mal qu'une personne peut me faire? Est-ce que Dieu irait même jusqu'à se servir de moi pour faire du bien à cette personne? Le pasteur Régent Joly a des réponses toutes prêtes pour nous. Il les a trouvées dans la Bible. Demandons à Dieu qu'il nous aide à comprendre tout ce bon enseignement. Prions. Ô Seigneur mon Dieu, tout être humain a un moment donné dans sa vie où quelqu'un lui fait du mal. On voudrait savoir comment se comporter dans des circonstances comme ça, mon Dieu. Il y a juste toi qui peux nous instruire et nous montrer la voie à suivre. Alors on s'attend à toi aujourd'hui, encore une fois. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro, pour toutes ces bonnes questions en rapport avec notre texte d'aujourd'hui. Sans plus tarder, allons directement dans notre lecture, chapitre 44, les versets 25 jusqu'à 28. Nous lisons, « Notre Père a dit, retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre Père, nous a dit, « Vous savez que ma femme n'a enfanté deux fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. » Ici, nous devons prendre le temps de noter quelques points. C'est Judas lui-même qui va résumer ces faits. Nous pouvons voir que Jacob a été trompé et Joseph s'en rend compte maintenant alors qu'il apprend l'histoire que ses frères ont inventée après l'avoir vendue. Le discours de Judas tient un peu d'une confession. Jusqu'ici, les frères avaient dit qu'il y en avait un qui n'est plus, mais ils n'avaient jamais donné de détails. Notre foi se manifeste lors d'un décès. Nous voyons aussi que même si Jacob grandit en grâce, il a encore du chemin à faire, comme chacun d'entre nous. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur Dieu, il s'appuie sur son jeune fils. C'est pourquoi il en serait mort si un malheur était arrivé à Benjamin. De nos jours, il y a des chrétiens dont la foi en Dieu est manifeste à l'occasion du décès d'un être cher. D'autres sont complètement dévastés par la mort de cet être cher. Qu'importe à quel point vous aimiez le décédé, si vous êtes un enfant de Dieu, et s'il l'est, vous allez vous revoir dans l'éternité. Quelle espérance! Celui qui marche selon la foi ne sera pas complètement dévasté lors d'une telle épreuve. Nous voyons que Jacob a encore du progrès à faire, mais nous voyons qu'il croit dans la grâce. Revenons à notre texte. Genèse 44, les versets 29 à 34. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra, en voyant que l'enfant n'y est pas, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant, en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur, de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père! » Quelle belle image de la personne de Christ! Remarquez à quel point Judas se soucie de son vieux père. Judas parle toujours au nom du groupe, donc les autres frères auraient aussi prononcé ces merveilleuses paroles. Joseph les a éprouvés, et nous voyons que Judas est prêt à prendre la place de Benjamin. Mes amis, plus tard, quelqu'un est venu de la lignée de Judas, un descendant de Judas. Il a payé pour nos péchés. Il a donné sa vie pour des coupables. C'est ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, l'Épître de Paul, aux Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ a pris la place de coupable. Judas est prêt à prendre la place de Benjamin. Ceci nous amène au chapitre 45 du livre de la Genèse, où nous trouvons la suite de ces événements. C'est dans ce chapitre que Joseph révèle son identité à ses frères et qu'il s'identifie à eux. Lisons le premier verset. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Joseph pleura, mais cette fois-ci, il ne put sortir de la pièce. Il se mit à pleurer abondamment. Mais il est le seul à comprendre pourquoi. Tous les autres se demandent ce qui se passe. Ni ses frères, ni les serviteurs égyptiens de Joseph ne savent pourquoi il pleure. Maintenant, Joseph demande aux gens de sortir. Joseph était seul avec ses frères lorsqu'il se fit reconnaître. Quelle retrouvaille à laquelle nous assistons! Joseph qui retrouve ses frères après presque 23 ans de séparation! Quelle merveilleuse retrouvaille! Ce n'était pas une simple poignée de main, mais une étreinte, une embrassade, une empoigne! Presque tellement cette rencontre est intense! On comprend tout à fait que Joseph ait pleuré toutes les larmes de son corps. Il avait 23 ans d'émotions et de serrements de cœur comprimés dans ses entrailles. Comme nous l'avons dit la dernière fois, un jour vient où Christ se fera connaître à ses frères. Il est venu une première fois, et les siens ne l'ont pas reçu, mais ils l'ont crucifié. Mais un jour, il reviendra une deuxième fois, et il se fera connaître à ses frères. Ils lui demanderont ce que sont ces plaies qu'il a aux mains. Il répondra, qu'elles furent faites dans la maison de ses amis. Ce jour-là, il se fera connaître à ses frères. Il y aura une fontaine de purification aménagée à Jérusalem même. C'est une affaire de famille. Et c'est à ce moment-là qu'il se fera connaître à eux, le Seigneur Jésus. Quelle belle scène que ce sera! Maintenant, après que tous furent sortis, le pauvre Joseph est très ému. Je suis certain que vous pouvez vous imaginer la forte émotion qu'il a contenue jusqu'ici. Le verset 2 de Genèse 45. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Les Égyptiens ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait dans la maison de Joseph. Ils ne pouvaient plus retenir ses émotions. Maintenant, prêtez attention à la réaction de ses frères. Verset 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père, vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Le mot « troublé » n'a pas toute la force du mot original. En fait, les frères étaient terrifiés en sa présence. Je vous le dis, s'ils avaient peur avant, ils sont terrifiés maintenant. La dernière fois qu'ils l'avaient vu, il y a 23 ans, ils l'ont vendu aux Ismaélites. Maintenant, ils pensent que Joseph peut vouloir se venger. Ils ont peur, mais ils n'ont pas raison d'avoir peur. Écoutez ce qui suit. Verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Je suis votre frère. » Ceci est le point culminant de tout cet incident. Imaginez comment ils peuvent se sentir. Notez l'attitude de Joseph. Il n'est pas en colère. Il ne désire pas se venger. Pourquoi une si belle attitude? La vengeance n'est-elle pas la réaction humaine habituelle? Maintenant, je vais vous rendre la monnaie de votre pièce. N'est-ce pas ce que nous entendons dans notre quotidien? » Lisons les versets 5 et 6. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. » Nous éprouverions moins de colère si nous voyons la main de Dieu dans notre vie. Maintenant, Joseph pouvait voir que Dieu avait permis ces années de souffrance pour un but bien précis, et que Dieu avait la main sur sa vie. Si vous et moi pouvions voir la main de Dieu dans notre vie, est-ce que nous éprouverions de la colère et chercherions-nous à nous venger? Je ne pense pas. Remarquez l'explication de Joseph. Comme toujours, il donne la gloire à Dieu. Il dit, « Dieu m'a envoyé devant vous. » Revenons à notre texte. Lisons les versets 7 et 8. « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Oui, chers amis, Dieu dirigeait la vie de Joseph, et nous voyons que la famine est loin d'être terminée. C'est ce que nous lirons au verset 11. Je cite, « Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. » En fait, il n'y a que 2 ans de famine découlés. Joseph reconnaît la main de Dieu. Il dit, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Dieu avait planifié tous ces événements dans la vie de Joseph. Maintenant le verset 9. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. » Donc il envoie à son père une invitation afin qu'il le rejoigne en Égypte. Versets 10 et 11. « Tu habiteras dans le pays de Gozen. » Et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Autrement dit, Jacob et sa maison n'auraient pu survivre s'ils étaient demeurés dans le pays de Canaan pendant le temps de la famine. En fait, ils auraient péri. Donc, Joseph veut qu'ils viennent en Égypte et qu'ils s'établissent dans le pays de Gozan, les meilleures terres de l'Égypte. C'est dans ce pays que Dieu en ferait une nation, à l'abri de l'influence du monde hors du pays de Canaan. C'est l'endroit tout désigné, et le style de vie de la famille démontrait la nécessité de s'y établir, loin de Canaan. Maintenant, lisons le verset 12. « Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. » Je pense qu'il se tenait devant Joseph entièrement stupéfié. Il se prosternait et se relevait, et il n'avait absolument rien à dire. Écoutez Joseph prononcer des paroles qui leur semblaient incroyables. Ils ne les auraient pas crues si elles n'avaient pas été dites en leur présence. Versets 13 et 14. « Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. » Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Voilà une scène très touchante entre deux frères, deux hommes merveilleux, Joseph et Benjamin. Verset 15. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Les frères étaient étonnés, stupéfiés, ils ne savaient pas quoi dire. Maintenant ils se ressaisissent et commencent à parler avec Joseph. La nouvelle se répand partout. Nous lisons, verset 16, « Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Tout le bruit et le tumulte dans la maison de Joseph ont attiré les serviteurs qui voulaient savoir ce qui se passait. Pharaon a questionné un des serviteurs de Joseph qui passait et lui a demandé ce qui se passait chez Joseph. Le serviteur répondit, « Vous savez, ces 11 hommes de Canaan, en visite chez Joseph, sont ses frères. » Cette nouvelle rendit Pharaon heureux. Pourquoi? Pharaon était de la dynastie Hyksos. Sa race et celle de la famille de Joseph étaient reliées. La dynastie Hyksos venait de la région désertique. Il ne devait pas faire très confiance aux Égyptiens. Pharaon était heureux de voir des gens en qui il pourrait avoir confiance. Maintenant, ils seront plus nombreux. Donc, poursuivons notre lecture et lisons les versets 17 à 19. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci. Chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte, et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. » La mention des chars est intéressante. Vous savez que la roue fut toute une invention. La population de Canaan n'utilisait pas encore de chars, mais la science égyptienne était plus développée. Pharaon ajoute, verset 20, « Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Inutile de rien apporter, nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin. Carte blanche. » Nous allons terminer ce texte de Genèse 45 en lisant ces versets de 21 à 28. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 sicles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères, qui partirent, et leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Israël dit, « C'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. » La pensée de revoir Joseph a sûrement aidé Jacob à décider de se rendre en Égypte. Pensez-vous qu'il désirait demeurer en Égypte? J'en doute. Il désirait probablement visiter son fils et revenir à la maison sitôt la famine terminée. Cependant, il n'est jamais retourné, sauf pour se faire enterrer, car il est mort en Égypte. Cette histoire est touchante, et nous allons poursuivre son étude. La main de Dieu est très visible dans la vie de Joseph, et c'est ce qui devrait caractériser la nôtre. Voir la main toute-puissante de Dieu agissante dans notre vie. Oh, que nous puissions réaliser davantage cette présence de Dieu dans notre quotidien. La présence de cette main qui nous garantit un soutien jour après jour. Une délivrance, un soutien pour alléger notre fardeau. La Bible est remplie de ces invitations venant de Jésus lui-même, en rapport avec le fardeau que l'homme porte dans son quotidien. Entre autres, Matthieu chapitre 11, les versets 28 et 29. Voici cette invitation. Que nous puissions avoir foi, confiance en ces paroles. Je cite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Un maître doux et humble de cœur. N'est-ce pas ce parallèle que nous avons vu, que nous avons mentionné tout au long de cette histoire, de ce chapitre concernant la vie de Joseph? Où il a pu déclarer à ses frères, « Ce n'est pas vous qui m'avez placé ici, mais bel et bien Dieu qui a permis que je sois maintenant celui qui peut vous délivrer, alléger et vous apporter la vie, même la vie. Sinon, c'était la mort certaine de rester loin de l'Égypte dans cette situation de famine. Jésus déclare la même chose aujourd'hui. Il déclare que c'est Dieu le Père qui l'a placé là aujourd'hui, dans notre quotidien, en tant que sauveur, libérateur. Et que si nous restons éloignés de lui, c'est la mort certaine pour chacun d'entre nous. Mais si nous nous approchons, et si comme les frères de Joseph, nous reconnaissons qui est cet homme, nous allons bénéficier de son œuvre. Jésus a dit, et je cite dans Marc, chapitre 10, verset 45, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. » Pour plusieurs, c'est pour tous ceux et celles qui reconnaissent qui est Jésus, la main toute-puissante de Dieu, la main agissante qui vient pour sauver et secourir le pécheur, pour le ramener et de pouvoir bénéficier de la présence de Dieu dans sa vie, d'être assis à sa table, d'être un de ses invités et de pouvoir être nourri de ses mets succulents. Spirituel et éternel, cette nourriture qui prend soin et qui donne la santé à l'âme. Donc, approchons-nous, selon la foi qui nous est accordée, selon notre foi, afin de pouvoir être secourus à tout instant, de pouvoir demander l'aide nécessaire dans la reconnaissance de la personne de Jésus, celui qui est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Quel parallèle entre ce Joseph et ce Jésus du Nouveau Testament qui nous est révélé dans les Évangiles ainsi que dans les Épîtres. Joseph a été placé là parce que Dieu l'a voulu. Jésus est placé là encore aujourd'hui parce que Dieu le veut. Un texte biblique qui le précise, dans l'Évangile selon Jean chapitre 17, alors que Jésus parle à son Père, et je cite, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu accomplir parfaitement le plan divin. Les projets, les desseins de Dieu s'accomplissent dans la personne de Jésus-Christ. Joignons-nous à lui, en plaçant notre confiance en Jésus seul. Comme Jésus-Christ, Dieu a utilisé Joseph pour accomplir son plan parfait, celui de délivrer ceux qui lui appartiennent. Rappelons-nous que Joseph est resté fidèle à Dieu, il lui a donné gloire en toutes choses dans cette histoire, malgré le fait qu'il a dû souffrir pour les autres. Alors, chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Genèse chapitre 46.
Merci, Régent. Je me fatigue pas d'entendre tout ce beau récit de la vie de Joseph. C'est un homme merveilleux de voir qu'il savait que la main de Dieu était avec lui. Il a pardonné à ses frères tout le mal qu'ils lui avaient fait. Il savait que Dieu avait permis tout ça pour faire du bien à sa famille, pendant la famine surtout. Et je pense à Paul qui nous donne un bon enseignement à ce sujet. Dans Romains 12, au verset 17, 19 et 21, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et si quelqu'un a agi comme ça, c'est bien le Seigneur Jésus. Sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Puis à un autre moment dans sa vie, le Seigneur Jésus a dit quelque chose de bien aussi. Si on va voir dans Matthieu 5, au verset 38 à 40, il dit « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ».» Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Quel bel exemple! Alors on voit que vraiment, Dieu ne veut jamais qu'on se venge de nos ennemis. Il veut qu'on aime nos ennemis, qu'on prie pour ceux qui nous persécutent. Il veut qu'on aime tout le monde, que tout le monde est notre prochain, alors on doit aimer notre prochain. Aussi, on sait que Dieu aime nous bénir. Alors s'il permet qu'on nous fasse du mal, il va transformer le mal en bien, tôt ou tard. On peut être convaincu de ça. Le Seigneur, il est pas menteur, il l'a dit dans sa parole. Et c'est merveilleux de voir tout le bien qu'il fait à travers le mal. Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, ils péchaient, puis Dieu leur pardonnait, puis les relevait, puis transformait toutes ces choses en bien. Puis aujourd'hui, il fait la même chose dans nos vies. Des fois, on pêche, et puis dès qu'on se repent, il permet qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui arrive autour de ça. Il nous bénit, il remplit nos cœurs de joie, il nous fait du bien. Le Seigneur veut toujours nous faire du bien. À nous d'être attentifs à ce qu'il veut nous donner comme bénédiction. À nous de pardonner et de le voir agir. Quand on pardonne, c'est sûr qu'on va le voir agir. Je me souviens d'une personne qui... Ça peut arriver à tout le monde, je me pense pas plus persécutée qu'une autre. Mais il y a une personne qui m'aimait pas. Puis elle m'avait dit un jour, « Toi, là, je t'aime pas. » Et puis Dieu avait mis dans mon cœur de lui pardonner, puis de lui faire du bien. Puis à chaque fois que je voyais cette personne-là, ben je lui disais ses qualités. Puis un jour, cette personne-là a été convaincue par Dieu qu'elle me faisait du mal. Puis elle est venue me voir, me demander pardon. Et après ça, j'étais pas capable de l'arrêter. Elle cherchait toujours à me faire du bien. Elle était toujours là pour m'aider, pour me rendre des services. Et j'aurais voulu l'arrêter même, puis elle était pas capable. Elle voulait faire toutes sortes de belles choses pour moi, puis elle cherchait à connaître mes besoins pour pouvoir m'aider, soit par un service, soit par un petit plat, de la nourriture, des cadeaux. En tout cas, ça n'arrêtait pas. Alors, je voyais toute la bénédiction qui suivait le pardon. Et puis, quelle bénédiction a suivi le pardon que le Seigneur nous a donné? Lorsqu'il est mort sur la croix pour nous, il a transformé tout le mal qu'on a fait en bien. Il nous a donné la vie éternelle, ce lieu où il va nous faire du bien, jour après jour, où on va être dans la lumière, où on va savoir que il n'y a plus de peine, il va essuyer toute larme de nos yeux. On va être dans la joie. Imaginez une joie parfaite pour l'éternité.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.